VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, bonjour à tous. Il est 11h en temps universel. Le président Denis Sassou Nguesso a été désigné candidat de son parti à la présidentielle de 2021 à l'issue du congrès du Parti Congolais du Travail, PCT. Âgé de 76 ans, le président Sassou cumule 35 ans à la tête du Congo, petit pays d'Afrique centrale riche en pétrole, mais dont la majorité des habitants vit sous le seuil de pauvreté. Jeudi, le principal parti d'opposition, Union panafricaine pour la démocratie sociale, UPDS, avait estimé que les conditions ne seraient pas réunies pour que le Congo organise une présidentielle en 2021. L'UPDS a proposé une transition et un scrutin en 2023 sans la participation du président Denis Sassou Nguesso. Au Congo voisin, en RDC, au sud Kivu, la population de l'espace Fizi Tomboué réclame justice dans les massacres perpétrés il y a 21 ans à Makobola et dans le sud Kivu en général. Par ailleurs, une réflexion a été lancée pour la mise en place d'un centre panafricain de transformation des conflits au cours de la commémoration du 21e anniversaire des massacres de Makobola. Ernest Mouero.
C'est pendant la commémoration du 21e massacre de Makobola que ces appels et réflexions ont été lancés. Les participants en majorité habillés en noir en signe des deuils sont venus des quatre coins du monde pour se remémorer ces moments douloureux. Pour Philippe Undji, notable de Makobola vivant à Kinshasa, il s'agit de rompre le silence autour de ces massacres.
Pendant que les gens préparaient les fêtes, les forces du mal ont envahi le peuple dans les églises, dans le champ et dans les différentes réunions. 21 ans après, nous avions pensé qu'il était important de se souvenir de ceux qui sont tombés, afin que maintenant ensemble, nous puissions projeter l'avenir, notamment en travaillant sur la transformation des conflits, en vue d'effacer les tristes mémoires de l'histoire au profit des efforts de développement.
Pendant la commémoration, plusieurs délégations ont pris la parole pour condamner la mort de plus de 700 personnes à Makobola et proposer des mécanismes de prévention des massacres. Le professeur Obedi Nyamanjoku, qui coordonne la cérémonie, a insisté sur la poursuite des bourreaux et la réparation des victimes.
C'est un devoir de mémoire qu'on reconnaisse qu'il y a des gens qui ont été tués ici et que la justice soit rendue. C'est que nous ne voudrions pas que, en fait, ces massacres puissent se perpétuer. Nous voulons une cohabitation pacifique avec toutes les communautés. Mais il n'y aura pas cette cohabitation pacifique sans que la justice soit rendue. Et il n'y aura pas de vraie justice si la vérité n'est pas dite.
Une rescapée du massacre, Janine Toumainia, regrette d'avoir perdu des êtres chers et témoigne des difficultés au quotidien pour subvenir aux besoins des enfants survivants des massacres.
Parmi nous, il y a beaucoup de veuves et orphelins et nous vivons une vie sans espoir. Personnellement, j'ai 6 enfants. Chacun se débrouille comme il peut depuis que je suis abandonnée à moi-même. Ces enfants n'ont pas pu faire des études c'est pénible qu'on nous aide à élever et à encadrer nos pauvres orphelins.
À l'occasion, l'évêque du diocèse d'Ouvira a rappelé à tout un chacun l'amour du prochain recommandé par le Christ et le ministre provincial de l'Intérieur a déposé une gerbe de fleurs au mausolée construit en mémoire des victimes des massacres. Le ministre Lobanjelwa Singabu.
Nous traînons beaucoup de plaies qui ne sont pas soignées, qui peuvent donner l'impression d'être guéries alors qu'elles ne le sont pas, tout simplement puisqu'il y a des étapes qui ont été escamotées. Il faut continuer à agir et chacun dans les limites de ses pouvoirs.
Des séries de témoignages pour la plupart à visage masqué et voix déformée ont cristallisé l'atmosphère, rappelant des atrocités jusqu'alors impunies commises au moment de la rébellion du Rassemblement Congolais pour la démocratie RCD, encadrée selon les dires des témoins par l'armée rwandaise. De Makobola à plus de 100 km de Bukavu, Ernest Mouero pour VOA Afrique.
Le parquet burundais a requis lundi 15 ans de prison à l'encontre de 4 journalistes et leur chauffeur arrêté le 22 octobre alors qu'ils couvraient l'incursion de rebelles burundais venus de la République démocratique du Congo voisine. Ces journalistes travaillant pour Iwachu, l'un des derniers médias indépendants du Burundi, sont accusés de complicité d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Écoutez la réaction d'Antoine Kabourae, directeur de publication du journal Iwachu.
Iwachu existe depuis 11 ans et jusqu'ici nous avions pu traverser toutes les crises parce que nous sommes un média indépendant, professionnel. On ne travaille pas pour un parti politique, pas pour une idéologie quelconque. Et jusqu'ici, tout se passait très bien. Et je persiste à croire que le ministère public va se rendre compte que ces accusations ne tiennent pas du tout, ne tiennent pas la route. Les journalistes se rendaient sur terrain pour faire de l'information équilibrée, pour recouper, pour recueillir des témoignages, comme nous le faisons depuis 2008 au Burundi.
Antoine Kabura est directeur de publication du journal burundais Iwachu, joint à Bruxelles par Timothée Donangmaï.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique de l'Ouest, l'ex-chef des jeunes patriotes ivoiriens Charles Blé Goudé a été condamné lundi par contumace à 20 ans de prison par la justice ivoirienne lors d'une audience surprise où ses avocats étaient absents. C'est M. Blé Goudé lui-même joint par téléphone à La Haye où il est en liberté conditionnelle après son acquittement par la Cour pénale internationale CPI qui a annoncé à l'AFP tard lundi soir sa condamnation à 20 ans de prison, 10 ans de privation de ses droits civiques, 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts à verser aux victimes. Blé Goudé était accusé par la justice ivoirienne d'actes de torture, homicide volontaire et viol, selon ses avocats, qui ne disposaient pas encore du texte du jugement ce mardi matin. Plusieurs enquêtes ont été ouvertes au Mali, dont une par la Division des droits de l'homme de l'ONU, après la publication d'informations faisant état de la disparition de plus de 20 civils interpellés par l'armée dans le centre du Mali. Les informations qui circulent depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux, imprécises et parfois contradictoires, mettent en cause l'armée malienne qui traque les groupes djihadistes dont les membres se mêlent parfois aux populations locales dans un contexte de rivalité violente entre les communautés de ce pays en guerre depuis 2012. Le groupe islamiste Al-Shabaab, lié à Al-Qaïda, a revendiqué lundi l'attentat au camion piégé qui a fait au moins 90 morts et plusieurs dizaines de blessés samedi à proximité d'un poste de sécurité situé dans la capitale somalienne, Mogadiscio. Anne Albesson nous en dit plus.
Dans un enregistrement audio, le porte-parole des Shebab déclare que l'explosion visait un convoi de troupes turques et somaliennes et leur a infligé des pertes importantes. Ali Mohamed Raghe accuse par ailleurs la Turquie de s'emparer de toutes les ressources de la Somalie et promet que le groupe islamiste continuera de combattre les collaborateurs du gouvernement turc. Il s'agit de l'un des attentats les plus meurtriers de l'histoire récente du pays. En octobre 2017, l'explosion à Mogadiscio d'un camion chargé d'explosifs près d'une citerne d'essence avait fait près de 600 victimes. L'agence somalienne de sécurité et du renseignement a déclaré sur Twitter qu'un gouvernement étranger avait contribué à planifier l'attaque sans dévoiler l'identité de celui-ci ni donner davantage de précisions. Elle a indiqué qu'elle enquêtait avec l'aide d'un service du renseignement étranger.
Retour sur le Congo, la République du Congo avant l'actualité internationale. Au moins 3000 personnes se retrouvent sans toit après des coulées de boue et l'ensablement du quartier Ngambio-la-Base causé par les pluies diluviennes enregistrées dans la région de Brazzaville, selon les responsables de ce quartier situé à l'ouest de la capitale congolaise. Depuis octobre, des pluies tombent sans répit sur le Congo, causant de nombreux dégâts, notamment le long du fleuve Congo et de la rivière Ubangi, où le gouvernement et les humanitaires tentent de venir en aide à 180 000 sinistrés. À l'étranger, des milliers de partisans de paramilitaires irakiens pro-iraniens ont forcé mardi l'entrée de l'ambassade des États-Unis à Bagdad pour protester contre des raids américains en Irak, poussant les forces américaines à tirer des grenades lacrymogènes pour les disperser. La foule en colère protestait contre les raids aériens américains qui ont tué dimanche 25 combattants des brigades du Hezbollah, un groupe armé chiite irakien membre du Hashd al-Shaabi, une coalition de paramilitaires dominée par des factions pro-Iran et intégrée aux forces régulières irakiennes. Et puis le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a appelé à des contre-mesures diplomatiques et militaires, ont annoncé mardi les médias officiels nord-coréens à quelques heures de l'expiration de l'ultimatum fixé par Pyongyang à Washington. Ces déclarations prononcées lundi lors d'une session plénière du Parti des travailleurs au pouvoir interviennent à quelques heures de l'allocution de M. Kim pour le nouvel an, lors de laquelle il pourrait préciser la nouvelle voie qu'il entend emprunter une fois cet ultimatum expiré. Jean-Roger Billon à ce micro. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes. Vous retrouverez Henri Francisque pour un nouveau journal. Meilleurs vœux à tous. Bonne année 2020.
soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.